Et ce que j'aimerais ce matin, c'est pouvoir partager avec vous ce psaume 121 que l'on connaît, que vous connaissez et que nous allons tout à nouveau relire ensemble. J'utiliserai ce matin la traduction de la Nouvelle Bible Second, un peu plus difficile à comprendre, mais parfois plus littéral et plus proche du texte. Chant pour les montées. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Inclinons-nous dans la prière, unissons-nous. Seigneur, nous t'avons rendu ce culte en esprit et en vérité. Ta convocation, nous y avons répondu. Nous t'avons apporté notre adoration au moment où nous voulons recevoir de toi encore cette bénédiction, au travers de ta parole, nous te demandons que ton Esprit Saint éveille notre esprit et nous éclaire, et que ta vérité, Seigneur, celle que seule ta parole nous enseigne, puisse aujourd'hui encore être le socle sur lequel nous bâtissons notre vie. Père, ce matin, reçois notre louange, notre adoration, mais entends notre prière et notre intercession. Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs, nous sommes et nous vivons en 2015. Depuis le début de cette année, nous vivons pas mal de difficultés, pas mal de problèmes. Nous avons sans cesse des choses qui nous alertent et créent chez nous une certaine inquiétude, une certaine crainte, angoisse, dirais-je même. Oh, c'était au mois de juillet, Charlie, et puis ça a été, juillet, c'est l'anniversaire de ma petite fille. Janvier, merci. Non, mais c'était pour voir si vous étiez attentif. Hein. Et puis, on croyait que c'était très loin. Hein, c'est vrai que tout ça s'est passé, puis bon, il y a eu pas mal de difficultés en Afrique aussi, en même temps on a surtout parlé des problèmes européens, mais qu'il y ait quelques centaines d'Africains qui se fassent massacrer au Niger, à Nigeria, bon, ça, ça passe moins dans les médias. Aujourd'hui, on en a reparlé la semaine dernière, parce que, de nouveau, c'était des Européens, Tunis, qui étaient visés. Nous sommes dans une période d'instabilité où l'on entend des paroles, il faut sécuriser. Permettez-moi ce matin de pouvoir reprendre ce psaume 121 de m'arrêter 30 secondes sur le fait que ce n'est pas un chant des montées, mais chant pour les montées. Dans tout ce que, dans tous les chants des de la montée, c'est-à-dire les psaumes 120 à 134, c'est le seul qui est là comme celui qui doit être et qui doit être chaque fois dit dans toutes les montées. Montée de quoi? Montée vers quoi? Montée vers Jérusalem. Montée vers le temple, puisqu'il y a une centralité en Israël du culte. Le croyant, est invité à monter à chaque fête à Jérusalem et de faire un parcours qui est beaucoup plus long que de venir de Charleroi à Ottigny. Cette invitation à monter, elle est en tout cas répétée dans la parole de Dieu pour trois fêtes, en tout cas perpétuelles. Quelles fêtes? Est-ce que vous vous rappelez? Quelles sont les fêtes pour lesquelles on est invité à monter à Jérusalem? Alors, il y a la première, Pessah, qui est la Pâque. Oui, la deuxième. Pentecôte, Shavuot, qui n'est pas une fête chrétienne, mais qui existait bien avant, effectivement. Et la troisième, plus difficile. Je n'ai pas compris. La fête des cabanes, des tentes, des huttes, du tabernacle, c'est Sukkot, effectivement. Ce sont les trois fêtes pour lesquelles l'on est invité à monter à Jérusalem. Trois montées, donc, où l'on va se déplacer. Et quand on se déplace, il y a un souci. Notre belle-fille, pour l'instant, est en Alsace. Et rien que cette nuit, je me disais, mais est-elle bien arrivée? On a toujours un souci. Mais dans ce psaume, il y a une chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention. Je lève les yeux vers les montagnes. C'est quoi ces montagnes? En fait, dans l'Écriture, au psaume 25, verset 1, et puis les autres, 86, 4, 143, 8, j'élève mon âme, dit l'Écriture. Psaume 63, verset 5. Tiens, les pentecôtistes étaient déjà là. J'élève mes mains. J'élève mes yeux. Ça, c'est le psaume 123, verset 1. Si vous remarquez la notion de élever, que ça soit l'âme, ma vie, que ça soit mes mains, que ça soit mes yeux, c'est toujours quelque chose qui, en fin de compte, s'élève vers Dieu. Et là, dans le psaume 121, pouf, c'est vers les montagnes. Pourquoi? Pourquoi arrêtons-nous de 30 secondes, d'où me viendra le secours? Secours parce que il y a du danger? Peut-être. Effectivement, lorsque l'on voyage, on peut se retrouver en danger. Il y a certainement des peurs. Et des peurs qui sont réelles. Si vous relisez le récit de Jésus, lorsqu'il raconte l'histoire du bon samaritain qui allait de Jérusalem à Jéricho, Luc chapitre 10, verset 25, cet homme se fait agresser sur le chemin. Il se fait agresser sur le chemin et il est laissé pour mort, se mettre en marche. Peut-être qu'en Europe, ce n'est pas aujourd'hui, on ne se fait plus agresser, sauf peut-être par les radars, mais si vous limitez votre vitesse, ça ira. Bon, à Madagascar, la fois dernière, quand nous y étions, c'était clair que si on allait de nuit sur Tana, la gendarmerie recommandait que l'on fasse, que l'on roule en convoi de 40 voitures parce que il y avait des craintes de se faire agresser. Donc il y a des peurs qui sont bien fondées. Elles sont justifiées. Il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui ne le sont pas. Mais il y a aussi les faux refuges. Et quand on parle des montagnes, à certains moments, le psalmiste semble dire, mais je cherche dans ces montagnes la sécurité. Il y a une pensée d'idolâtrie derrière cette idée. Car en fin de compte, effectivement, certains commentateurs ont dit que il y avait dans ces montagnes des forces que l'on pourrait chercher à obtenir afin de vaincre les dangers qui pourraient être là. Nous cherchons aussi, nous, de fausses sécurités. Nous cherchons bien souvent à nous sécuriser d'une manière ou d'une autre. En fait, que nous invite à faire le psalmiste? Le secours, dit le psalmiste, me vient de l'Éternel. Le secours me vient du Seigneur. Qu'est-ce à dire? En fait, quelque part par rapport à tout ce qui pourrait être autour de moi comme fausse sécurité, il décide que, en fait, sa sécurité, ça sera le Seigneur. Et c'est une déclaration de foi. C'est une confession de foi. Il met sa sécurité dans le Seigneur, dans l'Éternel. Et je voudrais attirer votre attention sur ceci. C'est que l'Éternel, le Seigneur, quand on le lit dans la Nouvelle Bible seconde, qui est celui-là? Oui, il est Dieu, c'est clair, mais n'oublions jamais qu'en fin de compte, c'est ce Dieu qui se manifeste à Moïse lorsque dans Exode chapitre 3 et verset 14, Moïse dit, mais qui donc m'envoie? Quel est ton nom pour que je puisse le dire à mes compatriotes? Et Dieu déclare à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Pouf, raté. Moïse voulait avoir un nom, il n'a pas un nom, il a simplement, de la part de Dieu, ce Dieu qui dit, je suis, j'existe. Et tu liras, celui qui m'envoie, c'est je suis. Et donc, chaque fois que nous lisons dans la parole de Dieu, l'Éternel, souvenez-vous qu'en fait compte, derrière, quand on la lit dans la traduction seconde, quand on lit cela dans la traduction seconde, souvenez-vous que derrière cela, il y a une chose, c'est que vous trouvez celui qui s'est révélé à Moïse comme le sauveur. Nous sommes toujours, et la plupart du temps, lorsque nous sommes en présence de l'Éternel, nous sommes toujours dans une relation de salut. Mais le psalmiste, non seulement il parle et il dit « Le secours me vient du Seigneur », mais il est aussi celui qui a fait le ciel et la terre. Qui est celui qui a fait le ciel et la terre? Celui qui a la toute puissance. Et sa puissance, il l'a manifestée à la création. Donc, il a la capacité, la puissance, que pour me sauver. Est-ce que nous croyons cela? Comme le psalmiste, est-ce que nous croyons que celui en qui nous plaçons notre confiance et notre sécurité a toutes les capacités que pour pouvoir nous sortir de toutes les embûches? Amen. Et je voudrais passer au verset 3 et vous faire remarquer juste une petite chose. L'Écriture me dit, « Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. » J'ai utilisé la Nouvelle Bible Seconde parce que elle nous déstabilise un petit peu dans notre train-train habituel, notre ronron de la parole de Dieu. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur « Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. » Nous passons d'un « je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel », et tout à coup on passe à un « tu ». C'est plus je qui parle, c'est tu qui parle. C'est tu qui m'interpelle et tu qui vient au-devant de moi. Et je peux me poser la question, mais qui parle? Qui me dit la suite? Alors, on pourra dire que c'est peut-être la personne à côté, sur le siège passager. Ah oui, à ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. Qui parle? N'est-il pas dit, moi, je suis, c'est Jésus qui parle. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 11. Moi, je suis. N'allez pas trop vite pour dire le bon berger. Arrêtez-vous à je suis. Qui s'est révélé à Moïse en disant, tu diras, je suis, m'a envoyé. Moi, je suis. Ouf. Jésus vient de dire quelque chose en reprenant les mots de l'Ancien Testament et où Jésus manifeste et proclame qu'il est le Dieu de toute éternité. Ainsi, cette fois dans l'évangile de Jean, va-t-il dire « Moi, je suis ». Vous connaissez, hein, la porte, la résurrection et la vie, etc., etc., etc. Et là, il dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Celui qui garde les brebis, eh ben, c'est Jésus. Mais n'est-il pas dit tout de suite après, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » Jésus dit que ses brebis entendent sa voix. Alors, au temps de la manifestation physique du Fils de Dieu sur cette terre, effectivement, nous pouvions entendre sa voix. Mais aujourd'hui, en 2015, comment est-ce que je fais? Qui parle aujourd'hui? Le Seigneur, lorsqu'il est remonté dans la gloire du Père, nous a dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit Saint. » Aujourd'hui, c'est lui qui parle et qui nous communique la volonté du Père et du Fils. Et il le communique comment? Mais au travers de sa parole. Parole qui a été donnée aux hommes par le Dieu qui parle et l'Esprit Saint qui m'éclaire sur ce que je lis et qui me dit encore aujourd'hui et me redit ce qui est important pour moi. La parole de Dieu est encore une parole qui m'interpelle aujourd'hui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Lorsque je suis dans les ténèbres, c'est elle qui éclaire mon chemin. Psaume 119, verset 105, c'est le fameux verset qu'a repris la Ligue pour la lecture de la Bible, association dont vous savez que je suis un des membres membre du conseil d'administration. Dieu nous dit dans sa parole qu'il est celui qui nous garde et qui ne sommeille pas. Du verbe shamar en hébreu, qui veut dire garder, surveiller, veiller sur, protéger, prêter attention, tenir. Il est ce gardien. Et en fait compte, il va nous le répéter par 5 fois dans ce même psaume, qu'il est celui qui nous garde. Il est ce bon berger qui veille sur son troupeau. Je fais partie du troupeau de Dieu et j'ai comme gardien celui qui est le gardien d'Israël. Je suis gardé. Mais il y a gardé et gardé. Hein. En Genèse chapitre 2, verset 15, l'Écriture me dit « Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Il est là pour le garder, pour garder la création et les créatures. Que devient ce verset tout de suite après, au chapitre 4, verset 9, lorsque Caïn a tué son frère Abel, il répond à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Eh bien oui, il était le gardien de son frère. C'était, en fin de compte, la mission qui était la sienne depuis, le jardin d'Éden, et il ne l'a pas observé. Lorsque je regarde dans le livre de Job, quelque chose d'assez étonnant. Chapitre 2 et verset 6. De quoi s'agit-il au chapitre 2, verset 6, vous savez? Job, chapitre 2, c'est quoi? Allez, on est dans quelle histoire? On est devant le fait que les fils de Dieu viennent se présenter devant le trône du roi, et dans ces fils de Dieu, il y a qui? Il y a Satan. Satan qui interpelle Dieu, Dieu qui interpelle Satan d'abord, en lui disant « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et que lui dit Satan? Oh, touche à ses biens, touche un petit peu à ce qu'il a reçu, et tu vas voir comment il va se détourner de toi. Et il y a une phrase qui est intéressante, que l'on ne retrouve dans aucune Bible en français, et pourtant le verbe « chamar » est bien utilisé dans ce verset, où, en fin de compte, il manque un mot qui disparut derrière mon image, « Prends garde à sa vie, dit Dieu. » Dieu dit à Satan, « Prends garde à sa vie. Tu peux tout faire, mais tu n'as pas le droit de toucher à sa vie. » Et qu'est-ce que nous constatons? C'est qu'en fin de compte, Satan va respecter, je ne crois pas, mais il va veiller en tout cas à ne pas enfreindre ce que Dieu lui a dit, car en fin de compte, si Caïn, lui, n'est pas très au courant de qui Dieu est et ce que Dieu peut faire, Satan, lui, il le sait très bien, qu'en fin de compte, Dieu pourrait le détruire, ce qui sera fait d'ailleurs au dernier temps. Et il ne va pas toucher à la vie de Satan, de Job. Et donc, ce que Dieu dit, l'adversaire de nos âmes, ne peut pas l'enfreindre. Et je crois qu'il est important de pouvoir le savoir. Celui qui te garde ne sommeille pas. Le Créateur de tout est aussi celui qui est le gardien d'Israël, et il devient ton gardien, il est mon gardien. Son attention est sur toi. Il y a de ça quelques années, ça remonte, non pas au déluge, hein, mais presque. Notre petit-fils, Valentin, aujourd'hui il a 16 ans et demi, à l'époque il en avait à peu près 3. Il était de passage chez ses grands-parents, et comme ça lui arrivait souvent à ce moment-là, pour une nuit ou pour plusieurs. Il avait l'habitude de dormir chez nous. Et Valentin était quelqu'un qui n'était pas effrayé par le sombre, par les ténèbres, par la nuit, puisque même chez lui, je me souviens, ses parents, son père était boulanger-pâtissier à l'époque, indépendant, il travaillait la nuit, maman l'aider, aider papa au magasin. Donc elle était fort occupée aussi à l'époque. Et Valentin se levait, descendait hardiment, comme on dit dans le Borinange. Il descendait à traverser le salon, la salle à manger, et puis il traversait toute la maison pour aller à l'atelier trouver son père et sa mère. Il n'avait aucune peur, et donc Valentin était quelqu'un qui, ça ne lui posait pas beaucoup de problèmes. Et puis un jour, ce jour-là, il était à la maison, on l'avait mis, grand-maman l'avait mis au lit, et tout à coup, quelques temps plus tard, on entend « Grand-maman, grand-maman, j'ai peur !» Tout le monde se précipite, c'est-à-dire ma femme et moi, au bas des escaliers pour trouver Valentin, là, en haut des escaliers, en pleurs, en larmes, inhabituel. Qu'est-ce qu'il avait vécu? Qu'est-ce qu'il avait rêvé? Quel était le cauchemar qui l'avait réveillé et qui l'avait effrayé? Ça, on n'en sait rien. Mais sa grand-mère l'a monté, l'a repris, l'a remis couché. Et puis, grand-maman a repris le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et elle a commencé à réciter le psaume 121. Jusqu'au moment où, tout à coup, 3 ans, hein, il avait 3 ans, 3 ans et demi à l'époque, Valentin dit, attends, si Dieu ne dort pas, il ne dort jamais. Mais non. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Mais alors si Dieu ne dort pas et ne sommeille pas, ça veut dire qu'il veille sur moi. Mais oui, Dieu veille sur moi. Donc je peux me rendormir. Mais oui, tu peux te rendormir. Et Valentin se tourne et 30 secondes plus tard, il ronflait comme un bienheureux. La confiance d'un enfant qui, par rapport à la parole de Dieu, croit ce que la parole de Dieu dit et l'applique dans sa vie. Et Valentin dort. Le psalmiste confesse sa foi. Mon secours vient de l'Éternel qui est le Créateur du ciel et de la terre. Alors celui-là, il ne sommeille pas, je peux lui faire confiance, il va me garder. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite, dit le verset 5. Il te protège, il me protège. Je suis gardé, tu es gardé. Je suis en sécurité, tu es en sécurité. L'Écriture me dit, la droite, c'est là où je me trouve. Il est à ma droite. La droite, c'est le bon côté. Vous savez qu'il y a un bon côté et un mauvais côté, hein? Vous connaissez ça, hein? Décidément, c'est la chute des feuilles, hein? On n'est pas encore au printemps. Ah si, c'est ce printemps. C'est déjà l'automne. Est-ce que vous connaissez la différence entre la droite et la gauche? Alors, ce n'est pas une question d'écrire, mais les brebis sont à droite et les boucs sont à gauche. À droite est la grâce, à gauche est le jugement. Je suis du bon côté, le Seigneur intervient, il est celui qui me défend. Comme il est dit dans le psaume 16 au verset 8, je contemple le Seigneur constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne vacille pas. Car en fin de compte, je suis gardé, mais je suis gardé contre tout ce qui peut et envisage de me faire problème, contre l'adversaire de notre âme. L'épître de Pierre ne dit-elle pas « Soyez sobres, restez éveillés, votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion rugissant qui va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Je suis gardé et je suis gardé même de lui. » L'apôtre Paul dira dans la deuxième épître à Timothée au chapitre 4 verset 18 « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a rendu puissant pour que par moi la proclamation soit pleinement assurée et que toutes les nations l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion, ce lion rugissant. Le Seigneur me délivra de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui la gloire à tout jamais. Amen. » Je voudrais juste vous poser une question. La deuxième épître de Timothée, à Timothée, c'est à quelle époque de la vie de Paul ? Elle se situe à quel moment de la vie de Paul ? Oui, mais il n'y a pas que celle-là où il est en prison, il y en a d'autres. C'est sa dernière lettre. Effectivement, il est prisonnier à Rome et, en fin de compte, on n'a plus d'écrit après lui, ce qui veut dire qu'en fin de compte, vraisemblablement, il disparaît. Et il dit quoi ? Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. Frères et sœurs, si nous avons mis notre foi en Jésus, si nous croyons que Jésus nous a réconciliés avec le Père, comme cela nous a encore été répété tout à l'heure, au travers du sacrifice, du don de sa vie sur la croix. Alors, le mont pèlerinage, ce n'est pas seulement une montée à Jérusalem. Ce n'est pas seulement mon déplacement d'aller de Tamatave à Tana. Ce n'est pas seulement aller manger une choucroute en Alsace. Mon pèlerinage, c'est ma vie ici-bas. Il gardera ton départ et ton arrivée. Et je voudrais simplement reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai l'assurance de mon salut. Pourrions rechanter tout à l'heure. J'ai l'assurance de mon salut, je sais en qui j'ai cru et je sais que je serai gardé jusqu'au dernier jour. Et lorsque je fermerai les yeux sur ce monde, que je l'ouvrirai, sur mon Seigneur. J'en ai l'assurance. Est-ce que tu en as l'assurance aujourd'hui? Est-ce que tu es convaincu de cela? Jésus est celui qui, si tu as lui a mis en lui ta foi, c'est celui-là qui te gardera et qui te gardera jusqu'au bout. Fais-lui confiance. Ne mets pas ta sécurité dans d'autres choses et mets ta sécurité en lui. L'épître aux Thessaloniciens dit « C'est lui qui le fera ». Eh bien oui, c'est lui qui nous gardera et qui nous gardera jusqu'au moment où nous vivrons à toujours avec lui. Le Seigneur me vient le secours me vient du Seigneur. Pas de panique. Pas besoin d'avoir de crainte plus grande que autre chose. Confesse ta foi. Confesse ta foi en celui qui a la capacité, la puissance de te sauver et qui te gardera. Celui qui est le créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, confesse ta foi en lui. Il est fidèle. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. C'est la signification même de Amen. C'est sûr. C'est sûr. C'est une assurance. Pas de fausse sécurité. Ma sécurité, c'est Jésus. Amen. Nous voulons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci de ce que aujourd'hui les temps que nous vivons sont des temps troublés. C'est vrai que nous entendons des discours, des médias, des politiques qui nous troublent et qui quelque part suscitent en nous des craintes. Mais aujourd'hui encore, Seigneur, tous ensemble nous voulons te dire, tu es notre sécurité. Car tu ne changes pas ce que tu étais hier, tu l'es encore aujourd'hui et tu le seras toujours. Tes paroles sont oui et amen en Jésus. Et nous avons cette conviction aujourd'hui, c'est que notre pèlerinage sur cette terre, tu le conduiras à bon terme. Et nos yeux verrons Jésus. Nous saurons combien nous avons été aimés. Père, aujourd'hui encore, relisant notre confession de foi, les uns avec les autres, nous te demandons que sans cesse, tu fasses grandir notre foi. Comme les disciples le disaient, que sans cesse, cette assurance, nous l'ayons en tout temps et en tout moment. Éclaire-nous lorsque nous mettons notre croyance dans des fausses sécurités. Toi, tu es celui qui nous garde. Fais-nous grandir dans cette foi, Seigneur. Peu importe que nous soyons petits, peu importe que nous soyons grands, peu importe le nombre d'années, nous avons besoin toujours d'être affirmés et réaffirmés dans ce que tu interviens en notre faveur. Père, nous voici devant toi, voici ton Église, Seigneur, qu'aujourd'hui encore, ainsi elle puisse progresser et d'aller de gloire en gloire par ton Esprit Saint. C'est ce que nous te demandons dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. À lui soit toute la gloire. Amen.